Bonsoir. L'ONG Human Rights Watch demande au gouvernement de la RDC d'exhumer sans tarder et de manière appropriée les corps enterrés le 19 mars dernier dans la fosse commune de Maluku à Kinshasa. Cette organisation internationale estime que cette fosse pourrait contenir les cadavres des victimes de disparitions forcées ou d'exécutions commises par les forces de sécurité congolaises. En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais soutient que seuls les cours des tribunaux de la RDC peuvent exiger l'exhumation des corps pour des raisons d'enquête. Comment analyser cette requête de Human Rights Watch? Nous en parlons avec Mme Ida Sarye, elle est chercheuse au bureau de Human Rights Watch en RDC. Bonsoir Mme Ida Sarye. Il va nous rejoindre, c'est Yves Kisombe, il est avocat et communicateur de la majorité présidentielle. Il y a aussi Maître Rifin Louko qui va aussi nous rejoindre, il est avocat et chercheur en droits humains. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'ONG des droits de l'homme Human Rights Watch demande au gouvernement de la RDC d'exhumer sans tarder de manière appropriée les corps enterrés dans la fosse commune de Maluku. Dans un communiqué de presse rendu public lundi dernier à Kinshasa, cette ONG internationale ajoute que la dite fosse pourrait contenir les cadavres des victimes de disparitions forcées ou d'exécutions commises par les forces de sécurité congolaises. Pour la chercheuse sur l'Afrique Human Rights Watch, des mois après la découverte de la fosse commune à Maluku, les autorités congolaises n'ont toujours pas fait la lumière sur l'identité des personnes qui y sont enterrées. On écoute Ida Sawyer, joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Human Rights Watch demande aux autorités d'exhumer les corps parce qu'il y aurait 34 plaintes. Mais des plaintes déposées auprès de qui? Le dernier.
Oui, je disais qu'on va écouter Madame Ida Sawyer, joint au téléphone par Michel Kifindangoy.
Oui, on pense qu'il y a plusieurs choses qui sont très suspectes liées à cet enterrement à Maluku. On ne trouve pas normal que ces cadavres étaient enterrés la nuit et selon les témoins, il y avait des militaires impliqués dans l'enterrement. Autre chose suspecte, c'est que la nuit de l'inhumation, un infirmière responsable du morgue de Kinshasa a décédé dans des conditions très suspectes. Et sa famille pense que sa mort pourrait être liée à cet enterrement de masse à Maluku. Et surtout, il y a ces familles qui cherchent où se trouvent les cadavres, les membres des familles qui étaient exécutés par les forces de sécurité ou portés disparus, enlevés par les forces de sécurité. Et on pense que l'exhumation des cadavres à Maluku, avec l'assistance des experts internationaux, pourrait aider à donner la lumière sur qui exactement a été enterré dans la fosse.
En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais rejette ce qu'il qualifie des prétentions de Human Rights Watch à se substituer au magistrat qui est chargé du dossier. Au cours d'une conférence de presse lundi dernier à Kinshasa, le ministre Lambert Mende a estimé que seuls les cours des tribunaux de la RDC peuvent exiger l'exhumation des corps pour des raisons d'enquête. Jusqu'à ce jour, la justice congolaise n'a pas encore enregistré de plaintes des familles réclamant la disparition de leurs membres qui soutiendraient l'hypothèse d'exhumation des corps à Maluku, ajoute Lambert Mende dans cet extrait proposé par Michel Kifindangoy.
Human Rights Watch demande aux autorités d'exhumer les corps parce qu'il y aurait 34 plaintes. Mais des plaintes déposées auprès de qui? Le dernier rapport du ministre de la Justice faisant état de deux plaintes de deux familles, de personnes qui ont parlé d'événements qui n'ont strictement rien à voir logiquement avec ceux qui ont été mis en exergue par les personnes qui ont voulu accuser le gouvernement de avoir commis des crimes dans le cadre de ces enterrements collectifs qui ont eu lieu à Maluku. Donc nous attendons que le magistrat décide, le dossier n'est pas fermé, et je répète ce que le gouvernement a dit, que au besoin, tous les devoirs de l'enquête seront réalisés avec le soutien du gouvernement si le magistrat estime que l'exhumation est nécessaire, le magistrat le demandera, mais il n'appartient pas à Human Rights Watch à se substituer à nos institutions.
Ida Sayeu, je rappelle que vous êtes chercheuse au bureau de Human Rights Watch en RDC. Vous demandez au gouvernement d'exhumer les corps enterrés le 19 mars dernier dans la fosse commune de Maluku. Qu'est-ce qui motive votre demande?
Oui, donc Human Rights Watch, nous avons demandé au gouvernement de procéder sans tarder avec l'exhumation des cadavres qui sont enterrés à Maluku, parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de lumière sur qui est enterré dans cette fosse. Il y avait plusieurs choses très suspectes liées à l'enterrement. Le 5 juin, donc le vendredi passé, les familles des 34 victimes ont déposé une plainte publique auprès du procureur général de la République réclamant justice et l'exhumation des corps inhumés dans cette fosse parce qu'ils craignent qu'il peut contenir les cadavres de leurs membres des familles qui étaient tués ou portés disparus par les forces de sécurité congolaises. Il s'agit des familles des victimes qui étaient exécutées ou portées disparues lors des manifestations ici à Kinshasa en janvier 2015, quand les personnes à Kinshasa ont protesté contre les changements à la loi électorale, et aussi les familles des victimes qui étaient exécutées ou portées disparues lors de l'opération Likofi. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu trouver les cadavres, les membres des familles. Ils veulent savoir où sont les membres des familles et ils ont, depuis qu'ils ont entendu parler de cette fosse à Maluku, ils avaient tellement de craintes que peut-être leurs membres des familles pourraient être ici.
Dans la première phrase de votre communiqué, vous dites ceci: les autorités de la République démocratique du Congo devraient sans tarder et de manière appropriée exhumer les corps enterrés dans cette fosse commune. Pourquoi sans tarder et de manière appropriée?
Donc nous craignons que le plus que nous attendons avant l'exhumation de cadavres de cette fosse, il y a plus de possibilités que les lieux pourraient être altérés. Jusque maintenant, j'étais dernièrement à Maluku, le site n'est pas du tout protégé. Et aussi, le plus qu'on attend, il y a plus de possibilités que les cadavres vont commencer à se décomposer et ce serait plus difficile de savoir exactement qui est enterré dans la fosse. Et donc, quand on dit manière appropriée, on a appelé qu'il y a une assistance des experts internationaux qui pourraient aider avec l'exhumation des cadavres et aussi les tests ADN.
Vous dites que cette fosse commune pourrait contenir les cadavres des victimes de disparitions forcées ou d'exécutions commises par les forces de sécurité congolaises. Madame Ida, avez-vous des informations selon lesquelles il y a des personnes qui ont été exécutées par les forces de sécurité congolaises?
Oui, donc nous, à Human Rights Watch, nous avons confirmé que lors des manifestations en janvier ici à Kinshasa, il y avait au moins 38 personnes qui étaient exécutées par la police ou la garde républicaine entre le 19 et le 21 janvier ici à Kinshasa. Quelques-uns parmi ces victimes, leurs cadavres étaient pris par la police ou par la garde républicaine. Jusque maintenant, leurs familles ne savent pas où se trouvent les cadavres ou dans quelques cas, ils sont allés à la morgue. Les gens de la morgue les ont interdits de récupérer les cadavres. Les employés de la morgue les ont dit, c'est une affaire de l'État, on ne peut pas vous aider, ne reviens pas ou vous aussi vous serez menacés ou vous aurez des problèmes. Il y a aussi quelques personnes qui étaient enlevées par la police ou la garde républicaine lors de ces manifestations. Jusqu'à aujourd'hui, les familles, ils ont cherché dans les lieux de détention, les prisons et aussi les morgues, ils n'ont pas trouvé leurs membres des familles. Dans l'opération Likofi aussi, entre novembre 2013 et février 2014, nous avons confirmé 51 cas d'exécution sommaire, 33 cas de personnes disparues par force par la police nationale congolaise. Parmi ces cas aussi, quelques-uns sont toujours portés disparus.
Et qu'est-ce que ces familles vous ont dit? Est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles sont passées par la justice qui a établi effectivement que ces personnes avaient existé et qu'à un moment donné, elles avaient disparu?
Donc, pour les victimes de l'opération Likofi, les familles des victimes de l'opération Likofi, plusieurs d'entre eux ont déjà porté plainte en novembre de l'année passée. Jusqu'à maintenant, donc, l'enquête est ouverte, mais ça traîne. Il n'y a pas de justice et le gouvernement a promis de publier un rapport sur l'opération Likofi avant la fin de l'année 2014. Jusqu'à aujourd'hui, ce rapport n'est pas publié. Donc, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de justice pour ces crimes. Mais aujourd'hui, donc, ils continuent leur demande, leur appel pour la justice ainsi que l'exhumation de ces cadavres.
Comment peut-on plutôt analyser votre attitude qui consiste à demander que le corps soit exhumé sans tarder, alors que vous savez qu'il y a une enquête en cours? Est-ce que c'est une façon de dire que vous vous méfiez de la justice congolaise?
On pense que c'est, donc, nous soutenons l'appel des membres des familles qui ont porté plainte et nous soutenons leur appel à la justice et qu'il y a cette exhumation. Et on pense que s'il y a une pression publique, on espère que ça pourrait mettre pression au gouvernement et au procureur de procéder avec cette exhumation avant que donc les preuves soient altérées ou ce serait plus difficile avec la décomposition des cadavres.
Vous ne pensez pas qu'on pourrait vous accuser de vouloir influer sur, n'est-ce pas, les cours des enquêtes ou alors de vouloir orienter les enquêtes?
On pense que s'il n'y a pas de pression, il y a une possibilité que le dossier sera oublié et ces familles ne sauront jamais qu'est-ce qui s'est passé avec leurs membres des familles. Ces familles, ils ont le droit de savoir si le membre des familles était enterré dans cette fosse ou pas. Et on veut mettre une pression pour encourager le gouvernement de honorer leurs promesses. Parce qu'en fait, le vice-ministre de l'Intérieur, Évariste Beauchamp, ainsi que le ministre de la Justice, ils ont dit lors de la réunion le 3 avril, quand ils ont annoncé qu'il y avait 421 cadavres enterrés dans la fosse à Maluku pendant la nuit du 19 mars. Ils ont aussi dit clairement plusieurs fois s'il n'y a aucun doute par rapport à qui est enterré, ils sont complètement prêts à procéder avec l'exhumation. Donc on veut que les autorités puissent respecter, honorer leurs promesses.
Est-ce que ces différentes familles sont allées saisir le procureur de la République parce que vous avez suivi les porte-parole du gouvernement qui qualifie votre attitude de prétention à vouloir vous substituer au magistrat qui est chargé de ce dossier?
Nous ne voulons pas du tout nous substituer qu'aux magistrats, mais les familles des victimes, ils ont déposé leur plainte auprès du procureur général de la République. Ils sont soutenus par un collectif d'avocats et on a vu l'accusé de réception qu'ils ont reçu. Donc on sait que la plainte est bien arrivée auprès du procureur général de la République.
Merci, Monsieur Yves Kisombe. Bonsoir.
Bonsoir.
Je rappelle que vous êtes avocat et communicateur de la majorité présidentielle, Human Rights Watch, pour l'exhumation sans tarder des corps enterrés à Maluku. Votre réaction?
Ma réaction, d'abord, en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'acteur politique, on ne peut être que défenseur des droits de l'homme, c'est de saluer l'existence d'une ONG comme Human Rights Watch, parce que les droits de l'homme, c'est pas relatif. Les droits de l'homme, c'est fondamental. Et donc, il faut que face aux dérives, aux risques de dérives qui arrivent partout, c'est pour ça que le droit international des droits de l'homme existe, parce que face aux abus des pouvoirs publics, il faut que les citoyens soient défendus et il faut que des associations existent. Donc je salue cela. Le problème, ce sont les dérives.
C'est une démarche.
Non, le principe, moi je suis vraiment favorable à l'action de Human Rights Watch en tant que ONG et en tant que défenseur des droits de l'homme. Je ne peux que saluer. Le problème, c'est la pratique. Le problème, c'est la spécialisation que Human Rights Watch au Congo a faite de son action dans le sens de l'orientation des positions qui sont les siennes. Elle veut orienter le travail d'une justice qui est censée être indépendante. Elle veut orienter les prises de position du gouvernement par des affirmations péremptoires. Hein, vous avez suivi Madame Sawyer ici. Il y a beaucoup de propos péremptoires. C'est comme ça. Elle rend des verdicts. Elle dit des choses avec une grande orientation de condamnation des pouvoirs publics.
Vous l'avez suivi. Elle a en fait, l'ONG oui. a reçu beaucoup de plaintes de la part des familles qui estiment que leurs proches seraient dans ces fosses.
Les plaintes ne sont pas synonymes de condamnation. Il faut bien se rendre compte que lorsqu'on défend les droits de l'homme, cela ne veut pas dire qu'on se positionne contre les pouvoirs publics par principe. Bien que les droits de l'homme existent face aux pouvoirs publics. Hein, c'est l'État qui est concerné par les droits de l'homme parce qu'il s'agit de défendre les droits de l'homme face aux pouvoirs publics. C'est ça le principe. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en l'occurrence, les autorités congolaises ont fait leur travail. Nous le savons, on n'est pas là pour relancer la polémique, pour refaire le débat. Moi, je suis là pour vous rappeler...
Un travail dont les fruits n'est pas perceptible.
Je vous rappelle que les autorités congolaises ont fait leur travail, qu'il s'agisse de l'opération Likofi, qu'il s'agisse des violences des 19, 20 et 21 janvier, qu'il s'agisse des cadavres de Maluku, parce que ça concernait l'opinion nationale et internationale, le vice-premier ministre Beauchamp a eu à donner des explications. Mais en termes de compétences constitutionnelles, l'hôtel de ville de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa, qui est compétent en la matière, en matière d'inhumation des personnes décédées et en matière de gestion des cimetières, c'est une matière qui relève des prérogatives provinciales. Et c'est ce qui a été acté à l'Assemblée nationale lorsque M. Beauchamp a été invité à répondre à des questions. Et donc, au niveau de l'opération Likofi, la PNC et la garde républicaine ont eu à être, j'allais dire, dédouanés. La clarté a été faite, les explications ont été données. Des bavures, il en existe. C'est pas Mme Sawyer qui va oublier ce qui vient de se passer en Afrique du Sud, ce qui se passe dans tous les pays du monde. La brutalité de la police américaine. Attendez, la brutalité, j'allais dire, régulière, systémique de la police aux États-Unis, dans toutes les villes. Vous avez vu comment des adolescents ont été brutalisés, de jeunes adolescents noirs brutalisés. On ne voit pas ça en RDC. Donc je crois que défendre les droits de l'homme, c'est bien, mais il faut relativiser et souligner que l'action de Human Rights Watch en RDC est manifestement orientée. Elle est tendancieuse, elle est manifestement politique, et on cite la garde républicaine parce qu'il s'agit du Congo de Kabila. Je trouve ça inacceptable. En 2011, on a accusé la garde républicaine d'avoir fait preuve de violence pendant le processus électoral. On revient, c'est à la charge, c'est systématique ces accusations. À chaque fois, est-ce que la garde républicaine ou ceux qui en ont la responsabilité politique, le ministre de la Défense, etc., la présidence de la République, sont stupides pour chaque fois remettre des uniformes de la garde républicaine à chaque fois qu'il y a des manifestations des opérations de répression? La garde républicaine, elle s'occupe de la sécurité présidentielle et de rien d'autre.
Voilà. Plusieurs mois après qu'on ait découvert la fosse commune de Maluku, vous ne pensez pas que les familles auraient, n'est-ce pas, les droits de savoir si leurs proches seraient enterrés dans cette fosse commune?
Entendons-nous bien. Je ne défends pas d'éventuels crimes qui auraient été commis. Si des crimes ont été commis et que la justice, avec l'aide notamment d'organisations comme Human Rights Watch, arrive à le démontrer, je serai le premier à défendre les victimes. Donc je suis du côté des victimes, moi, en tant que communicateur de la majorité présidentielle, en tant qu'acteur politique. Je suis évidemment du côté des victimes potentielles, éventuelles. Mais je ne veux pas qu'on les fabrique sur le dos du gouvernement congolais, ces victimes. C'est ce que moi je veux dire.
Il y a des familles qui se sont manifestées.
Non, il y a des familles qui se sont manifestées. C'est la justice qui doit faire son travail. S'il y a eu des tueries, s'il y a eu des tués, c'est à la justice d'établir la lumière. Il n'appartient pas à Human Rights Watch de donner des injonctions aux cours et tribunaux, aux parquets congolais. S'il doit y avoir exhumation...
À votre avis, qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui les procureurs de la République de pouvoir décider de l'exhumation, n'est-ce pas, de ces corps? Mais à partir du moment où les familles se manifestent avec des documents, pourquoi n'est pas décider que les corps soient exhumés?
Je ne suis pas porte-parole du parquet général de la République. Allez leur poser la question. J'attends qu'ils fassent éventuellement, à leur niveau, des déclarations publiques ou des points de presse, comme on le voit quand des enquêtes sont menées avec un suivi de l'opinion. Je n'en sais strictement rien. Moi, ce que je sais, c'est que la justice congolaise existe et qu'elle doit faire son travail. Maintenant, je ne suis pas là pour dire que le procureur a bien fait ceci ou qu'il a mal fait cela. Moi, je dis que la justice doit faire son travail. Merci. Je sais qu'une enquête est en cours. Attendons les résultats de cette enquête. Mais je ne dis pas qu'a priori, il n'est pas question d'exhumer. Moi, je ne dis pas ça. C'est pas ça mon propos. Je comprends les préoccupations de Madame Sawyer. Oui, de Madame Amidasseur. Je comprends parfaitement. Ce que je trouve inacceptable, c'est le côté péremptoire et orienté et tendancieux de ces accusations.
Merci, Maître Fin Loco. Bonsoir.
Bonsoir, Guy. Bonsoir à tous.
Je rappelle que vous êtes avocat et chercheur en droits humains. Comment vous analysez cette demande de Human Rights Watch?
Ici, je ne suis pas avocat, je suis chercheur ici en droits humains, comme vous avez dit. S'agissant de Human Rights Watch, j'ai toujours gardé un œil plus ou moins national par rapport au travail que cette théonisienne internationale a fait pour la République.
Œil national, c'est-à-dire.
Œil national, ça veut dire par rapport au travail que cet allié a fait pour la République, en ce qui concerne notamment les agressions et l'insécurité à l'est du pays. Pour défaire, n'est-ce pas, les différentes rébellions, le pays s'est appuyé sur le travail énorme qu'a fait cette ONG. Et je considère donc de temps en temps que lorsque nous lui jetons de pierres, rappelons-nous que nous avons eu à jeter des fleurs également à cette ONG qui était partenaire utile. Alors, revenant au dossier ici en cours, ce dossier, la façon dont il a été géré, je suis encore étonné de voir que la justice doit avoir encore un porte-parole autre que la justice elle-même. C'est important maintenant que la justice ait été saisie officiellement, que ce soit elle et elle seule qui parle de ce qu'elle est en train de faire. Et la justice est tout un pouvoir, parce que là ça crée, est-ce que je peux appeler ça polémique, parce que tout simplement il y a quelqu'un qui a parlé et qui n'est pas de la justice. Il faut donc que dans notre pays on apprenne à laisser la justice non seulement faire son travail mais parler pour elle-même.
Alors vous en tant que défenseur des droits humains, lorsque les familles vous saisissent, n'est-ce pas, comment vous réagissez en tant que défenseur des droits humains? Les familles qui disent nos proches ont disparu et nous pensons qu'ils peuvent se trouver parmi les cadavres contenus dans cette fosse de Maluku. Comment vous réagissez en tant que défenseur des droits humains?
Sur cette antenne, nous l'avons déjà stigmatisé plusieurs fois. Notre justice n'a pas de moyens pour répondre aux besoins de la population. Les frais de fonctionnement. Parce que...
Mais cette même justice se refuse de se faire assister par les partenaires extérieurs.
Non, mais la justice ne doit pas se faire assister tout le temps par des partenaires extérieurs. La justice, elle est indépendante. Ça veut dire qu'elle doit susciter à son sein des soutiens qui lui sont propres et qui l'aident à administrer d'une manière juste la justice. Donc, une justice nationale. Et ça, c'est un drame. Une justice nationale, c'est comme les élections. Même pour organiser les élections, il faut un financement extérieur. Non,
je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes devant des familles, n'est-ce pas, qui se plaignent?
Oui.
Vous, en tant que défenseur des droits humains.
Nous faisons d'abord notre travail, nous saisissons cette justice. Lorsque les familles sont venues pour se plaindre auprès de nous, nous saisissons la seule instance qui a pouvoir de donner réponse. Ça veut dire de faire justice, ça s'appelle le pouvoir judiciaire.
C'est sur le cours de tribunal. Est-ce que l'approche utilisée par Human Rights Watch en publiant ces communiqués, est-ce que c'est pas aussi une façon de réveiller cette justice, de lui demander de faire rapidement son travail?
Non, c'est-à-dire, en ce qui concerne la démarche de Human Rights Watch, en tant que défenseur des droits humains, eh bien, je ne trouve pas quelque chose à redire. Elle a fait son travail en tant qu'organisme ou groupe de pression pour que les choses bougent. Elle a fait son travail. Point. Aller au-delà, je considère que ce sont des interprétations politiques et là, je n'ose pas aller sur ce terrain-là. Faire la pression pour que la justice avance, c'est de l'avantage de tous les citoyens de la République. Mais entrer en politique, ça c'est autre chose. Je voulais juste dire que notre justice a comme problème principal l'absence de moyens conséquents. Je vous disais la fois passée qu'en ce qui concerne par exemple l'exhumation des corps et les réidentifications. Je prends les parquets de grande instance de la Gombe, des Kalamu, des Matete, d'Injili. En ce compris les auditorats militaires. Nous n'avons pas une expertise nationale à cette fin. Donc, pour eximer et identifier les corps, nous n'avons pas d'expertise nationale.
Alors, mais
ça veut dire ceci.
Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous contredire nous-mêmes? Parce que vous dites que nous n'avons pas assez de moyens. Mais lorsque les partenaires vous proposent, n'est-ce pas, leur assistance, vous avez tendance à refuser.
Non, ça veut dire... Écoutez la logique, Guy. Les partenaires qui nous proposent leurs moyens, ils sont déjà intéressés. Notre justice peut requérir l'expertise de Brazzaville, ou de l'Angola, ou bien du Zimbabwe.
ou bien de la Zambie. Ceux-là ne sont pas intéressés. Ça veut dire ceci. Les partenaires qui viennent nous proposer que nous nous sommes intéressés, nous avons de moyens, ceux-là sont intéressés. En matière de justice, le partenaire, lui, ne doit pas être intéressé pour que la justice soit indépendante. Nous avons souvent des problèmes parce que tout simplement, c'est celui qui donne le moyen, qui donne l'orientation. Et ça, dans le cadre de rendre autonome et réellement indépendante notre justice, le trésor doit donner le moyen. Le trésor doit donner les moyens. Alors dites-moi, est-ce que le procureur d'Essaya, comme on dit, c'est-à-dire le procureur qui est compétent, c'est lui d'Enjili Maluku? Non, d'Enjili, maintenant qui est assisté par son collègue de Kinkole. Est-ce qu'a-t-il reçu tout le moyen pour procéder 421 corps? Ah non, il faut un personnel de pas moins de 30 personnes pour procéder à la chose. Merci. Ça veut dire il faut de moyens. Et moi, je m'oppose à ce que ce moyen-là vienne d'une communauté internationale déjà intéressée.
Merci, Ida Fayeur. Comment vous réagissez aux propos, n'est-ce pas, d'Yves Kissombe et de Maître Richard Loukou?
Donc, Human Rights Watch, nous, on n'a pas la confirmation de ce qui est enterré dans cette fosse commune à Maluku, mais on sait qu'il y a beaucoup de suspicions, beaucoup de doutes, beaucoup de choses qui ne sont pas claires, beaucoup de procédures normales qui n'étaient pas suivies et des familles qui cherchent le leur. Si le gouvernement n'a rien à cacher, pourquoi pas procéder avec l'exhumation de ces cadavres? S'ils font l'exhumation, ils n'ont rien à cacher, tout le monde sera apaisé. Les familles, ils ont écrit dans leur plainte publique, depuis que nous avons appris qu'il y a eu en enterrement de masse aux alentours du cimetière Fula Fula à Maluku et sachant que nos enfants étaient soit tués, soit enlevés par les forces de sécurité congolaises, nous vivons une situation d'angoisse qui ne cesse d'augmenter chaque jour qui passe. Si le gouvernement n'a rien à cacher, allez procéder avec l'exhumation des cadavres et ça va apaiser ces familles. Ils vont savoir, pour ceux qui, dont leurs membres des familles sont portés disparus, ils peuvent garder l'espoir qu'ils vont les revoir un jour. Ou pour ceux qui sont tués, ils peuvent organiser un enterrement digne. Mais les choses, le fait qu'ils attendent, ils ne veulent pas procéder avec l'exhumation, ça donne l'impression que le gouvernement a quelque chose à cacher.
Madame Ida, il y a des réactions, hein, parmi lesquelles celle de, qui vient de Dungu en province orientale, pour vous.
Christian Aribou de Dungu, province orientale. La requête de Human Rights Watch peut paraître fondée, mais ne souffre-t-elle pas des manques de respect d'étapes méthodologiques? Si Human Rights Watch, après ses enquêtes, détient des preuves convaincantes, pourquoi ne pas exhiber à la portée de justice congolaise et que l'exhumation des corps n'intervienne qu'en dernier ressort pour confirmer ou infirmer ces preuves par analyse d'ADN? N'a-t-on pas vu dans le passé comment ces accusations sur l'Irak de Saddam Hussein, la Libye de Kadhafi et autres, pour possession d'armes de destruction massive, ces accusations s'étaient révélées comment plus tard? Nos compatriotes morts et ensevelis dans des conditions qui choquent nos mœurs africaines. Les humains pour présomption déclarative, n'est-ce pas un sacrilège?
Oui, nous allons ajouter cette réaction qui vient de Bukavu Sud-Kivu, de Robert Baomé, qui dit « Pour la recherche et les soucis de la vérité, cette requête de Human Rights Watch n'est pas en soi mauvaise. Néanmoins, je pense qu'y parvenir appellerait nécessairement Human Rights Watch à collaborer avec le gouvernement et non à les contraindre. Cette organisation ne doit pas se comporter en gendarme ni en policier international, la RDC étant un État indépendant et souverain. » Oui,
oui. Donc, nous, comme Maître Loukou a dit, donc nous soutenons les familles qui ont porté plainte. Nous avons le droit de donner des recommandations au gouvernement. On a déjà rencontré plusieurs officiels du gouvernement pour partager nos recommandations, nos inquiétudes, les informations que nous avons documentées. C'est toujours notre manière de travail, mais souvent, les choses peuvent changer ou vont changer seulement s'il y a une pression publique. Donc, c'est pour ça qu'on a publié ce communiqué pour mettre une pression pour qu'il y ait cette exhumation, pour qu'on puisse savoir qui vraiment est enterré dans cette fosse. Et on pense aussi que c'est, comme Maître Loukou a dit, il n'y a pas vraiment l'expertise ici au niveau national. Donc on a aussi appelé les partenaires de la RDC, les Nations Unies, à aider avec l'exhumation et aussi avec les tests ADN.
Oui, Yves Kissombe, vous avez suivi Madame Ida qui estime que le travail n'évolue pas et il faut qu'il y ait une certaine pression pour que le travail puisse évoluer.
Je peux comprendre cette position. Moi, en tant que politique, ce que j'ai à dire, parce que mon propos est vraiment politique, et parce qu'il faut un propos politique. Maître Louko s'en garde, mais moi, j'y vais dans ce sens-là. Je mets en garde l'opinion nationale contre les risques de manipulation. Et pour dire... Madame Ida Sawyer nous parle de suspicions. Elles sont généralisées, ces suspicions. Elles portent sur les ONG de défense des droits de l'homme, légitimement. Et donc, elles portent sur les pouvoirs publics. Les suspicions concernent les Nations Unies. Est-ce que je vais vous rappeler l'opération pétrole contre nourriture en Irak? Vous savez, la mafia qui a existé à ce niveau-là, au niveau des Nations Unies. Est-ce que c'est le gouvernement congolais à qui on peut donner des leçons? Vous regardez les suspicions qui existent, mais vous savez que nous avons eu maille à partir avec le bureau conjoint des Nations Unies sur certaines analyses. Nous travaillons ensemble, nous devons travailler ensemble, mais lorsque par exemple le bureau conjoint a eu à prendre des positions unilatérales alors qu'il fallait se concerter sur les violences de 2011 des élections, il fallait plus de concertation avec le gouvernement, nous avons eu à monter au créneau pour dénoncer cela. Et lorsque nous constatons que systématiquement Human Rights Watch reprend les positions hostiles au gouvernement congolais, il y a lieu de se poser des questions, mais défendre des victimes éventuelles, mais nous sommes tous favorables à cela. Ce que je trouve curieux, c'est que les victimes en question qui ont déposé plainte, comment ça se fait qu'on ne les voit pas plus? Comment ça se fait qu'elles ne se manifestent pas plus sur le plan national, sur le plan médiatique, sur le plan politique aussi? Le vice-premier ministre...
Vous ne pensez pas que ce serait une façon de s'exposer,
manifester? Non, vous pensez vraiment que l'opposition la plus radicale dans ce pays raterait l'occasion de prêter le flanc aux analyses de Human Rights Watch? Non, je pense qu'il y a un souci de nuisance.
Il y a
un souci, une volonté de nuire à l'image de la RDC. Il y a une volonté de nuire au Congo de Kabila.
Il y a une question pour vous.
Ça, c'est mon propos.
Qui vient de Guémena à l'Équateur.
Oui.
C'est François Ouassidou à Guémena, dans la province de l'Équateur. Le gouvernement n'est pas un acte à qui on peut demander de contester les forces publiques. Toutes les ONG nationales et internationales des droits de l'homme, la société civile, les partis politiques doivent continuer à exercer des pressions pour que les forces soient exilées et que la vérité soit connue.
En fait, vous avez répondu à cet aspect, hein, mais étant donné que cette affaire des fosses communes des Maluku a fait couler beaucoup d'encre et de salive, vous ne pensez pas que la meilleure façon de gérer ces dossiers, c'est de communiquer chaque fois que l'enquête atteint une certaine étape?
Mais moi, je...
Ah, si, parce que certainement. Vous ne communiquez pas, en fait,
certainement.
La justice ne communique pas par rapport à ça.
Oh, certainement qu'on peut exprimer une soif d'entendre la justice de notre pays sur ces questions-là. Ruffin Louko a dit quelque chose d'intéressant. Il ne faut pas que des personnes tierces à la justice, comme moi ou comme Madame Sawyer ici, fassions parler la justice à sa place, disions des choses que la justice n'a pas dites. Vous voyez, donc je crois qu'il ne faut pas faire dire à la justice qu'elle ne le dit pas, mais il faut l'inciter certainement par nos propos, par nos commentaires, nos analyses. Moi, oui, j'espère que bientôt nous allons entendre le procureur de Kinkole, oui, parce que c'est pas le PGR.
Et donc cette ONG a raison d'avoir mené cette démarche.
Mais est-ce que moi j'ai quelque chose à cacher en tant qu'acteur de la famille politique du président de la République et donc des autorités congolaises pour la plupart? Moi j'ai rien à cacher. Moi s'il y a des abus, des bavures, des tueries qui ont été faites, vous pensez que nous en tant que famille politique qui sommes là pour les Congolais, nous allons vouloir cacher cela ou couvrir cela? Pas du tout. Donc l'action de Human Rights Watch ne peut pas nous gêner en soi. Nous sommes simplement préoccupés par ce qui nous apparaît comme des intentions manifestes de nuire à l'image du pays, de nuire à l'image du gouvernement congolais. C'est là où le problème se pose pour nous.
Maître Ruffin Louko, il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Lubumbashi au Katanga.
Sylvain Kabanga à Lubumbashi. La requête de l'ONG a un sens du moment où la mort du général de Kinshasa, qui avait promis d'afficher la liste pour permettre au public d'identifier les liens, ne l'a pas fait. la justice en République démocratique du Congo est la fille aînée du pouvoir malgré plusieurs réformes entreprises. Le gouvernement semble stopper politiquement la question et pourtant elle est juridique, sachant que Thomas Sankara, 28 ans après sa mort, la vérité est établie. La vérité sur cette question finira par apparaître. Caché, caché, on ne cachera pas tout.
Maître Rufin Lecour.
Bon, ça dit, moi j'ai presque une vingtaine d'années dans cette profession de la défense des droits des gens. Je crois que ces dossiers ici auraient dû être gérés sereinement. Vous vous rappelez que dans la chronologie des faits, jusqu'à l'enterrement, jusqu'à la révélation de l'enterrement, il n'y a pas de plainte. Des plaintes des personnes telles et telles qui auraient été, n'est-ce pas, enterrées ici ou disparues là-bas. Il n'y avait pas de plainte officiellement.
C'est parce que l'affaire était cachée.
Non, t'as dit non.
Qui savait qu'il y a des corps qui ont été enterrés à Maluku? Personne ne les savait.
Oui, mais...
Ni les familles en question.
T'as dit, les victimes, elles devaient déjà... Non, dans la pratique. Lorsque vous êtes victime de quelque chose, vous vous plaignez quel que soit ce qui va arriver. Vous vous plaignez anticipativement. On appelle ça, dans la procédure, plainte contre inconnu. Alors, jusqu'à la révélation des enterrements...
Au mois de mars,
il n'y a pas de plainte. Les plaintes qu'on a apprises sont arrivées après. Et puis, nous sommes à Kinshasa. Je me demande comment doit-on défendre vaille que vaille l'image du gouvernement en tari alors que nous avons va en poupe sur ces questions, nous pouvions nous défendre. Par exemple, toutes les personnes dont les corps sont trouvés sur la rue sont prises par les services de Croix-Rouge et très déposées à la morgue. Ces personnes-là ne sont pas identifiées pour la plupart qui n'ont pas de carte d'identité sur elles, ces corps-là. Ils sont déposés comme ça sans identification. Et les enfants qu'on ramasse sur le fleuve ou un gilet et qu'on sort, toutes ces personnes-là, sans enquête appropriée, on les dépose à la morgue sans identification. Et notre morgue qui n'a pas un laboratoire pour l'identification par ADN. Ça veut dire que ces corps-là sont comme ça, sans identification. Et c'est donc possible qu'on puisse dire à la population qu'autant de personnes ou bien autant de corps parmi cet ensemble ne pouvaient pas être identifiés. Mais la façon dont on a procédé, c'est ce qui fait, n'est-ce pas, comme vous dites, suspicion. Mais je considère que on peut laisser la justice communiquer et il faut qu'on évite.
Voilà,
Je termine la phrase, Guy. Nous avançons comme au Moyen-Âge alors que nous sommes au siècle de Facebook, des réseaux sociaux. Il faut qu'on évite dans notre pays que nous réagissions toujours lorsque Human Rights Watch a fait rapport, Amnesty International a fait rapport, Azado a fait rapport, Akaj a fait rapport. Non. Ces ONG-là sont des groupes de pression. Nous pouvons donc continuer à fonctionner normalement et les procureurs pourraient tenir une conférence de presse pour dire voici là où j'en suis. C'est pourquoi nous avons toujours réclamé en ce qui vous concerne. Et nous voyons Okapi faire sa part que la presse ne doit pas laisser la justice fonctionner à vase clos. La présence de la presse dans la justice permet à ce que la justice bouge. Mais si vous abandonnez la justice elle-même, vous verrez des situations comme ça où la justice gère une question. Par exemple, les violences sexuelles. La loi dit que non, les violences sexuelles doivent être jugées dans un mois. Si vous laissez, vous presse, n'est pas rappelé au magistrat que non, la loi dit ceci, vous verrez 6 mois, une année, et il n'y a toujours pas de jugement en cas de violence sexuelle. Donc, votre présence est importante, et je crois que nous n'avons pas besoin des rapports de Human Rights Watch pour que la justice bouge, pour que la justice se prononce et donne un rapport à la population. Mais il faut qu'on apprenne donc
il faut quand même reconnaître à communiquer
à temps réel.
Que les mérites de ces communiqués de Human Rights Watch, c'est d'avoir réveillé tout le monde, n'est-ce pas? Parce qu'on avait tendance à oublier cette affaire des fausses communes de
Maluku. Moi, ça me gêne, ça. Notre justice est à mesure de communiquer par elle-même.
Elle ne le fait pas malheureusement.
Bon, c'est-à-dire, souvent on ne lui laisse pas communiquer.
Non, c'est elle qui
doit communiquer. On la devance, on veut maintenant qu'elle vienne éventuellement confirmer ce qu'on a dit. S'il vous plaît, notre justice amène à un conseil supérieur de la magistrature, elle est organisée, elle a un bureau.
et un bureau national qui peut permettre qu'on communique. Elle a un syndicat, plusieurs syndicats. Donc, s'il vous plaît, qu'on laisse notre justice. Ça, ça nous honore. Parce que, qu'on ne donne pas l'impression que le gouvernement connaît beaucoup que la justice elle-même suit ce qui se passe dans la justice. C'est important que l'indépendance de la justice soit respectée en laissant la justice elle-même communiquer.
Madame Ida,
oui, donc par rapport à ce dernier point, je pense que nous tous nous sommes au courant qu'il y a plusieurs dossiers qui arrivent à la justice et qui restent sans suite. Et il n'y a pas de suivi, jamais. Surtout quand il s'agit des cas sensibles ou des personnes tuées ou portées disparues par les forces de sécurité. Donc s'il n'y a pas une pression qui vient de l'extérieur, souvent il n'y a pas de tout de suite. Donc je pense que cette pression est importante. Et je voudrais répondre à un point que M. Kisombe a dit plusieurs fois, que nous, Human Rights Watch, on a toujours une position hostile du gouvernement congolais. Et je pense peut-être que vous n'avez pas vu tous nos communiqués et tout le travail qu'on a fait, par exemple, pendant toute la rébellion de M23. C'est nous qui avons publié tout le temps pour dénoncer les crimes de guerre, pour dénoncer le soutien de militaires rwandais à cette rébellion et pour essayer de mettre fin à la rébellion. Il y a plusieurs autres cas. Donc je pense que notre travail ici et de documenter et dénoncer les graves violations des droits humains, n'importe qui est l'auteur. Et par rapport au fait que nos suspicions sont généralisées, si vous lisez notre communiqué, on a beaucoup de suspicions qui sont quand même très concrètes. Donc d'abord, la façon dont l'enterrement a eu lieu, c'était pendant la nuit, à 2h du matin. Selon les témoins, il y avait un gros camion à bain qui est arrivé à la lisière du cimetière à Fula Fula à Maluku avec des militaires en bord qui ont commencé à enterrer les cadavres au milieu de la nuit. Ce n'est pas du tout une procédure normal. Un témoin qui en chante juste à côté du cimetière, il a vu ce qui s'est passé. Plus tard, il y avait des personnes inconnues qui ont venu chez lui plusieurs fois à la maison et à son lieu de travail. Ils ont accusé d'avoir divulgué les secrets de la fosse commune à Maluku. Plus tard, il a reçu un appel d'un inconnu qui lui a dit « Toi, attends, tu vas mourir ». Donc, des gens qui sont menacés à cause de ce dossier. Encore plus suspect, il y avait un infirmier responsable d'une morgue ici à Kinshasa, la clinique Ngaliema, qui est décédé dans des circonstances très suspectes la même nuit de l'enterrement de cette fosse commune.
Donc, vous établissez des liens entre le décès de cette infirmière et l'affaire fosse commune de Maluku?
On pense qu'il y a une possibilité, donc on demande qu'il y ait une enquête. Et voilà. Sa famille pense que ça peut être lié. C'était juste après l'aéroport de Ngili, en route vers Maluku.
Nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vais vous demander de conclure aussi. Hein, vous pouvez aussi conclure, Madame Ida.
Oui, donc on pense donc si le gouvernement n'a rien à cacher, pourquoi pas procéder avec l'exhumation de ces cadavres à la fosse commune, tout le monde serait apaisé. Mais jusqu'il y a l'exhumation, on n'aura pas la lumière, on ne saura pas qui exactement est enterré. Et ces familles qui cherchent le leur, ils vont continuer à vivre dans cette angoisse. Et les familles, ils ont le droit de savoir où sont leurs membres des familles.
Merci Yves Kisombe, votre conclusion.
Oui, ma conclusion, c'est que les autorités congolaises n'ont aucun intérêt à cacher des problèmes qui concernent la justice ou à commettre des tueries. Ici, c'est la justice qui est compétente en la matière, donc je ne sais pas ce qu'on attend du gouvernement congolais ou du gouvernement provincial de Kinshasa, qui ont eu à s'expliquer sur la question. Même sur le volet nocturne de ces enterrements, nous avons entendu des explications qui paraissaient plausibles concernant la quiétude ou le caractère discret qu'il faut à ce genre d'enterrement d'indigents. Et maintenant, je ne défends pas à tout prix. On a eu des explications qui ont semblé plausibles. Et donc, je dis que Human Rights Watch, bien sûr, qu'elle est notre partenaire à la RDC dans bien des questions relatives aux droits de l'homme, notamment par rapport aux groupes armés, aux rébellions à l'Est et tout ça. Je n'ai pas dit qu'en toute chose, elle faisait des choses mauvaises, mais je dis qu'ici, sur la question de Maluku, il y a une intention manifeste. Merci. De nuire.
Maître Rufien Louko, votre conclusion, quelle est la procédure à suivre pour arriver à une exhumation?
Oui, mais l'exhumation n'est pas demandée par le procureur, c'est le procureur qui l'ordonne. Et
pour... Le gouvernement congolais n'a rien à cacher. On laisse la justice faire son travail. Et ça, ça va nous dédouaner, ça va rétablir l'image de notre pays. Nous avons besoin que notre pays soit toujours respecté par rapport à tout ce qui se passe.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Guy Manzangou qui était à la technique, Alain Irung, Kelly Kouté et Berry Saint-Claude-Chaka qui m'ont aidé à présenter, à préparer cette émission sous la supervision de Martin Ferrou-Jangwe, à la présentation Guy Maté. Merci et bonne suite au programme sur Radio Okapi. Thank you.